Ce matin, on va lire un texte qui se trouve dans Actes au chapitre 2. Donc, ceux qui connaissent la Bible savent de quoi il est question. Actes chapitre 2, verset 1er. On va lire plusieurs versets. On a parlé jusqu'à présent du fruit de l'Esprit, ce que le Saint-Esprit produit dans la vie de quelqu'un qui fait la paix avec Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter en nous quand nous faisons la paix avec Dieu. Mais Dieu veut que nous vivions encore davantage, être baptisés dans son Saint-Esprit. Et on pourrait parler ce matin du fruit du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire quelles sont les conséquences quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, Actes chapitre 2, verset 1er, c'est ce jour de la Pentecôte, justement, où ces choses se sont passées pour les disciples. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu qui se séparaient les unes des autres leur apparurent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et s'exprima en ces termes, vous juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. » Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frère, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis. Et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Amen. On va s'arrêter là. On a lu un bon passage, mais c'est tellement réjouissant hein, quand on relit tout ça, de laisser la parole à nouveau faire son œuvre dans notre cœur. La Pentecôte, ce jour merveilleux où le Seigneur a répandu son esprit sur ses enfants, c'était un moment incroyable. Et la ville de Jérusalem a été marquée même. Il y a une œuvre qui s'est faite suite à ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Et ce qui m'interpelle quand je lis Actes chapitre 1, qu'on n'a pas lu, mais que je me souviens de ce qui se passe, Actes chapitre 1 nous parle du départ du Seigneur vers le ciel. L'ascension, comme on dit. Et nous parle aussi de l'absence de quelqu'un. Dans les 12, ils sont plus que, on l'a lu, ils sont plus que 11. Jésus est parti, Judas est parti. L'un vers le ciel, l'autre ailleurs. Mais on peut imaginer quand même dans le cœur des disciples le vide qu'il y a. Avoir passé 3 ans et demi avec le ministère du Seigneur Jésus, avec sa présence jour et nuit, ça nous marque. N'est-ce pas? Et le fait de le voir partir, ils étaient tellement subjugués par le Seigneur que même quand il avait disparu dans le ciel, ils restaient à fixer le ciel jusqu'au moment où un ange est venu les secouer gentiment en disant « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Il va revenir, oui, mais en attendant, obéissez à ce qu'il vous a enseigné. Mais il y avait un vide dans leur cœur. Et on voit aussi qu'ils ont dû désigner un 12e apôtre parce qu'il y avait un vide. Un homme avec qui ils avaient partagé tellement et tellement de choses. Ils ont pleuré, ils se sont réjouis, ils ont écouté les mêmes enseignements du Seigneur avec lui. Il était là jusqu'au bout, sauf que, à un moment donné, il a fait des mauvais choix. Mais ça blesse quand même des personnes. Et ça fait quand même un vide. D'accord? Que quand c'est des personnes qui aiment le Seigneur qui s'en vont vers le ciel, ça fait un vide. Mais quand c'est des personnes qui renoncent au Seigneur, ça fait aussi un vide. Dans les deux cas, on sent dans le cœur des disciples qu'il y a un vide. Et je vois dans ce chapitre 2 la réponse du Seigneur. Et je pense que c'est quelque chose que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Quand nous vivons des situations où il y a comme des vides, le Seigneur veut nous remplir de son abondance. Et c'est ça la Pentecôte. C'est l'Esprit Saint qui a envoyé, mais pas en petite quantité, pas des gouttelettes du Saint-Esprit, mais c'est l'abondance. C'est quelque chose qui déborde. Et ce matin, je ne voudrais pas insister sur le fait que ça a débordé par le parler en langue. C'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une autre prédication. Ce n'est pas le point principal, mais c'est quand même ce qui attire notre attention. Ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Très intéressant. Je ne sais pas ce que vous pensez du parler en langue, mais moi, je sais que je veux faire ce verset de l'apôtre Paul. Je parle en langue plus que vous tous. Je passe mon temps à parler en langue, justement quand je suis dans la voiture, quand je suis tout seul et que je suis sur la route. Des fois, il y a la musique qui est là, mais j'écoute même plus la musique. Je parle en langue, je prie, je me réjouis avec le Seigneur parce que je sais que c'est un moyen que le Seigneur nous donne pour fortifier notre être intérieur. Je voudrais m'arrêter ce matin sur cet aspect, cette réalité que quand on est rempli du Saint-Esprit, on se met à parler. Mais qu'est-ce qui sort de notre bouche? Vous voyez, vous savez que je veux en venir. On va voir ce matin que le Saint-Esprit nous donne des paroles inspirées, des paroles particulières, qui ont des qualités, et exactement dans ce texte, c'est ce que nous voyons. Par exemple, quand au verset 8, il pose la question, le peuple qui est là pose la question, « Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle ?» On a lu hein, toute la liste des nationalités ou des différentes régions qui étaient représentées. Et le Saint-Esprit a fait en sorte que chaque parler en langue soit destiné à une des personnes qui étaient présentes. C'est merveilleux. Imaginez que Dieu ait demandé aux disciples d'apprendre chacun une langue. Ça ne se serait pas passé en quelques minutes. Je ne sais pas si vous êtes doués pour les langues. Mais moi, c'est pas trop mon cas, et je sais qu'il a fallu répéter pour que j'aie une certaine notion de certaines langues. Mais humainement, on peut arriver à faire certaines choses, mais quand le Saint-Esprit met son doigt, ça change tout. En un instant, ils étaient capables de parler à des personnes et donc avec un langage que eux-mêmes ignoraient. C'est ça qui est impressionnant. Et c'est ça qui est merveilleux. Ce que je voudrais souligner ce matin, c'est que le Saint-Esprit nous donne des paroles claires et constructives. Claires parce que ce sont des paroles qui sont à la portée des gens. Souvent, on essaye de rendre témoignage. Quand on ose rendre témoignage, on essaie de le faire, mais on se fait piéger par un espèce de langage, un patois de Canaan, comme on appelle. On emploie plein de termes techniques, religieux, qui font que les gens qui nous écoutent, parfois sont perdus et ils ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Il faut que le sang de l'agneau de Dieu vienne t'offrir la rédemption. Mais vous dites ça à quelqu'un dans la rue aujourd'hui, s'il n'a pas trop de connaissances religieuses, il ne va pas comprendre ce que vous parlez. Il va croire que vous êtes un pro-viande et lui, peut-être qu'il est vegan et il va y avoir l'opposition. Il faut apporter les choses de manière simple, claire. Et le Saint-Esprit nous donne cette faculté de le faire, c'est-à-dire présenter à quelqu'un, on veut lui présenter l'évangile, Dieu peut te donner la paix, Dieu peut te donner le pardon. Ça, c'est facile, tout le monde comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit nous aide à avoir des paroles claires, des paroles qui brillent d'elles-mêmes. Et souvent, il n'y a pas besoin de trop se compliquer, hein, il suffit de citer la parole en fait. Il suffit de prendre les versets du Seigneur et de laisser la parole avoir son effet dans les cœurs. Mais il faut bien choisir les versets. On est d'accord. C'est difficile de trouver des versets dans le Lévitique. Quoique, je me souviens ce témoignage qui m'a bouleversé. Une dame me disait qu'elle avait fait des études de droit. Je crois qu'elle était notaire ou dans un cabinet de notaire. Et elle connaissait très bien la justice, les lois, les codes civils. Tout ça, c'est son truc. C'était pas le mien, mais c'est son truc. Et elle a dit, quand j'ai lu la Bible, je trouvais ça pas très intéressant, jusqu'au moment où je suis arrivé au Lévitique. Le Lévitique, c'est des lois. C'est ce que le peuple de Dieu devait faire. Mais quand elle a vu comment Dieu prenait soin de donner des lois à son peuple pour sa bénédiction, elle a été touchée, convaincue de péché. Ouais. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Hein. C'est incroyable, mais c'est merveilleux. Parce que le Seigneur, il sait, il connaît en fait, il sait les personnes qui sont en face de nous. Il les connaît mieux que nous-mêmes. On peut les connaître. Il nous connaît mieux que nous-mêmes d'ailleurs. Et il sait les paroles qu'elles ont besoin d'entendre. C'est important d'avoir ces paroles qui sont claires pour les gens qui nous entourent. Quand on voit ce que Dieu a fait, Dieu s'est mis à notre portée. Dieu nous a donné sa parole, mais écrite dans une langue humaine. D'accord ? Il aurait pu faire différemment, mais il a voulu se mettre à notre portée. Encore mieux, il a donné son Fils qui a pris forme humaine pour venir nous porter ce message. Dieu se met à notre portée continuellement et nous devons nous mettre aussi à la portée des gens. Ce n'est pas se conformer au monde, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est nous mettre à la hauteur des gens pour pouvoir leur témoigner de ce que le Seigneur fait dans notre cœur. Paul a dit à sa manière, « Je me suis fait tout à tous, avec ceux qui sont sous la loi comme étant sous la loi, bien que n'étant pas liés, avec ceux qui sont sans loi comme étant sans loi, bien que je sois toujours sous la loi du Seigneur, avec les faibles comme étant faibles, etc. etc. » Afin, c'est ça qui est important, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Si nous avons dans notre cœur le désir de toucher des âmes autour de nous, nous devons laisser le Saint-Esprit nous donner des paroles qui sont à la portée des gens et qui vont impacter le cœur des gens. Combien de fois ça m'est arrivé de dire des paroles toutes simples, même dans des prédications, et moi j'avais l'impression de dire des choses banales presque, mais sans le savoir, il y avait une personne dans la salle dont un mot a interpellé le cœur. Je ne savais pas, je l'ai appris des mois après. Mais le Seigneur, lui, sait. Et ça nous montre que c'est pas l'instrument qui est digne de gloire, c'est le Seigneur qui est digne de gloire. Il se sert de nous même sans qu'on le sache. C'est ça qui est merveilleux. Apprenons donc à donner des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Au verset 11, il y a cette question aussi, deuxième question qui est posée. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Il ne disait pas des critiques, il ne disait pas des paroles négatives, il ne disait pas « vous ne valez rien, ça ne sert à rien, tout ce que vous faites c'est de la religion ». Ce n'était pas ça qu'ils étaient en train de dire dans le parler en langue. C'était des merveilles de Dieu. Frères et sœurs, combien c'est important quand on est rempli du Saint-Esprit que de notre bouche sortent des paroles qui proclament les merveilles de Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on dit Dieu à tout bout de champ, mais qu'on ait cette attitude de donner des paroles qui encouragent, qui fortifient, qui font du bien, pas des paroles au contraire qui découragent, qui critiquent les uns et les autres. Ah, il a fait ci, ah, il a fait ça. Ça, ce n'est pas la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui édifie. Et on l'a déjà dit plusieurs fois, même si Dieu nous reprend, il y a toujours un moment donné où il nous élève. S'il nous dit une parole pour nous reprendre, c'est parce qu'il veut nous corriger pour qu'on soit béni. Je me souviens de cette dame qui était un peu mystique, qui venait d'une autre église et qui avait assisté à une réunion de jeunesse. C'était une jeune fille, en fait. Et en désignant une autre personne à la sortie, je la connaissais un petit peu, mais donc elle s'est permis de me dire quelque chose. Elle m'a dit, voilà, vous voyez cette dame là-bas, cette autre dame, le Seigneur m'a montré que sur sa vie, il y avait comme un squelette qui était là et qui faisait de l'ombre. Elle était dans l'ombre du squelette. J'ai dit que c'était pas mal hein, comme vision. Et je lui ai dit, mais... Et la suite alors? Ah non, non, c'est tout ce que le Seigneur m'a montré. Alors, j'ai pas voulu rentrer dans le débat, mais je me suis souvenu que quand le Seigneur parle, quand le Seigneur nous parle, il nous dénonce certaines choses, mais il nous donne la solution aussi. D'accord ? Voir un squelette au-dessus de la vie de quelqu'un, moi, ça me fait pas du bien. Je sais pas vous. Et surtout, ce que j'ai fait, je n'ai surtout rien dit à la personne. Parce que je savais, moi je connaissais un petit peu la personne, elle avait quelques soucis, elle avait quelques difficultés, mais elle aimait le Seigneur, elle était fidèle, elle comptait sur lui, etc. Elle avait ses combats comme nous tous. Et il y a des jours où on peut porter sur nous la tristesse, mais c'est pas pour autant qu'il y a un squelette qui est au-dessus de notre tête. Hein. Et surtout, ce qui m'a interpellé dans ce témoignage, c'est que j'ai eu quelques nouvelles il y a pas longtemps, des deux personnes. Celle sur qui, soi-disant, l'ombre du squelette rôdait. Elle aime le Seigneur, elle va toujours à l'église, elle est fidèle. Et l'autre, par contre, elle s'est refroidie totalement. Elle est retournée en arrière. Frères et sœurs, faisons attention à ce que nous disons. Que les paroles que nous disons soient inspirées du Seigneur. S'il y a parfois des avertissements qu'on doit donner, des dangers qu'on doit souligner dans la vie des autres, mais faisons attention dans la manière de le dire, et surtout cherchons que ce soit le Seigneur qui nous conduise. Pour ne pas nous tromper et nous piéger nous-mêmes par de faux raisonnements. Trouvez-moi un autre passage dans la Bible, je fais un quiz ce matin, où il est question de Saint-Esprit et de vin. Et les pasteurs n'ont pas le droit de répondre dans ce lieu. Alors, Saint-Esprit et vin. Non. Alors, qui va trouver? Il n'y a pas de prix par contre. Je vous mets sur la piste. Éphésiens 5. Peut-être que le début va vous parler. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Je crois que c'est Charles Spurgeon qui disait, dans ce passage, il y a ceux qui se moquent, qui disent ils sont pleins de vin. Mais il souligne le fait que même des gens qui se moquent ont compris que ces personnes étaient pleines de quelque chose. Eux, ils ont accusé que c'était le vin. Mais en fait, ils soulignent que même les incroyants voyaient que les chrétiens étaient pleins, c'est-à-dire qu'ils débordaient de quelque chose. Que le frères et sœurs, que même ceux qui nous accusent, que même ceux qui nous regardent de travers, puissent voir qu'il y a quelque chose qui nous fait déborder, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer, mais qui est réel et qui se voit. Alors ça, c'est une parenthèse. Soyez au contraire remplis d'esprit, et regardez ce qu'il est dit, de quelle manière on montre ça. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous êtes d'accord que dans tout ce qu'il est dit là, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantez, célébrez, rendre grâce, ça concerne ce que nous disons. Je ne sais pas si vous aimez rendre grâce à Dieu. J'espère que oui, parce que c'est un commandement. Hein. Rendez grâce à Dieu en tout temps et pour toute chose. Rendez grâce à Dieu le Père. Que de notre bouche sortent des paroles qui sont des grâces. D'ailleurs, on remonte à l'envers ce chapitre. Regardez le verset 3. On s'aperçoit que quand Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit », il a préparé le terrain. Il a expliqué déjà dans ce chapitre les dispositions de cœur qui font qu'on va être rempli de l'Esprit. Verset 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours. Il est question que des choses qui sortent de notre bouche. Vous avez remarqué ? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Ça m'est arrivé, et je dis ça avec presque les larmes dans les yeux, de voir des personnes qui venaient dans l'église et qui avaient un langage très léger, voire limite très équivoque, et qui venaient de louer le Seigneur juste avant et qui après louaient le diable. C'est une façon de le dire, hein ? Mais combien c'est dommage. Quand le Saint-Esprit entend nous, on a des paroles qui glorifient Dieu, qui sont des merveilles. Regardez, c'est la même pensée qui est dite de manière encore plus percutante. Verset 29, 4, 29. « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Frères et sœurs, je crois que le Seigneur y met le niveau très haut. Mais nous devons accepter cette rigueur du Seigneur. Parce que ce que nous disons est quelque chose qui montre ce qu'il y a au fond de notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus l'a dit de cette manière. Et dans les paroles que nous disons, nous devons refléter la vie, l'amour, la grâce, la paix que le Seigneur a déposée dans notre cœur. Nous devons avoir ces paroles inspirées qui fortifient, qui font du bien et qui encouragent ceux qui nous écoutent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de reprendre les personnes, mais la parole de Dieu nous dit, on l'a déjà cité plusieurs fois, qu'il faut le faire avec beaucoup de douceur, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, parce que c'est comme ça que le Seigneur a fait avec nous. L'Esprit Saint nous remplit aussi de paroles cadré. Qu'est-ce que ça veut dire cadré ? Des paroles qui sont données dans un contexte précis. Par exemple, il y a ce cadre qui est fait quand Pierre va se mettre à parler. Pierre n'a pas fait un concours avec les autres disciples pour choisir qui va parler. C'est le Saint-Esprit qui a désigné. Et qu'est-ce que les autres ont fait ? Les autres ont laissé Pierre parler. Est-ce que vous vous souvenez que c'était toujours comme ça avec les disciples ? Ou alors, est-ce qu'il y a eu des jalousies ? Est-ce qu'il y a eu à rechercher qui était le plus grand ? Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, mais eux s'en souvenaient très bien. Hein ? Sauf que le Saint-Esprit vient recadrer les choses. Et Pierre va se mettre à parler. Il est dit qu'il se présenta avec les 11. J'ai dans la tête cette image des 12 apôtres qui se mettent en avant. Mais Pierre fait un pas encore davantage. Et il est entouré, il est approuvé, il est dans la communion fraternelle. Et il parle au nom de tous. On entend tellement de fois des personnes qui parlent en leur propre nom, tout seul. Des gens, la Bible le dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Frères et sœurs, quand on entend quelqu'un qui s'est tenu à l'écart et qui veut nous donner la leçon, c'est quand même compliqué de l'écouter. Hein. Parce que dans les faits, d'abord, réconcilie-toi, d'abord, joins-toi, laisse l'amour fraternel dominer, et puis après on écoutera ce que tu veux dire. Je me souviens de cet exemple. J'ai reçu un jour un livre dans ma boîte aux lettres d'un monsieur, c'était le livre « 7 preuves irréfutables que le retour du Seigneur a lieu en 2015 ». A priori, soit on a loupé tous le wagon, soit il y a eu une erreur sur la date. Mais malheureusement, on a eu tellement de dates qui ont été annoncées qu'on n'est plus surpris. En tout cas, moi j'ai lu quand même, parce qu'à l'époque on était en 2013 ou 2014, hein, donc c'était intéressant de voir qu'est-ce qui était avancé. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai lu ce livre, que j'ai fait un peu des recherches sur l'auteur. Moi j'aime bien creuser, hein, quand on me parle de quelqu'un, j'aime bien creuser. J'ai vu un témoignage qu'il rendait sur, je crois que c'est sur Internet. Il disait, il a voulu donner ce message dans toutes les églises, mais les portes sont fermées les unes après les autres. Donc, c'est chez lui qu'il a eu une révélation. Ouh là là, j'ai dit ça, ça commence mal. J'ai lu, j'ai regardé. Il y avait des éléments qui étaient intéressants, d'autres qui étaient moins. Mais le jour de 2015, septembre 2015, le 15 septembre 2015, tout s'est passé normalement. Hein. On n'a pas vu de différence. Vous avez vu une différence ? Non. Et le problème, c'est qu'après... Ah non, on s'est trompé, c'est le 16. Ah non, on s'est trompé, c'est dans 3 mois. Et là, tous les 3 mois, il y a une mise à jour. Quand on se tient à l'écart, on est en danger. Et on a besoin de la communion fraternelle. C'est pour ça que nos paroles, les paroles que l'on prononce, doivent être encadrées. Doivent être données dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la communion fraternelle. Pierre s'adresse au peuple avec les 11. Dans cette communion-là, frères et sœurs, quand vous voyez quelqu'un qui se tient à l'écart, faites attention aux paroles qui sont dites. Ça ne veut pas dire de plus lui parler, ça ne veut pas dire de plus l'aimer, c'est pas ça que je dis. Mais discernez. Discernez les choses. Laissez le Seigneur vous inspirer. Il y a quelques mois, je vous donne plusieurs exemples. Il y a quelques mois, on m'a demandé mon avis sur une vidéo sur YouTube. Vous savez qu'il y a eu le confinement, beaucoup de gens sont allés fouiller un peu à droite et à gauche, et on trouve de tout sur Internet, hein, vraiment de tout, même dans le domaine de la foi. Et donc, on m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo, ce pasteur ? Bon, je vais sur le site indiqué. Et là, je m'attendais à voir un monsieur derrière un pupitre dans une église. Je tombe sur une vidéo avec une image, je ne sais plus ce que c'était, si c'était la Bible, une image fixe et une voix de robot qui lit un texte. Déjà, ça c'est pas terrible. Hein. Déjà, on a la puce à l'oreille. Mais en plus, dans le contenu, c'était la catastrophe. Le monsieur, je sais plus le nom du pasteur, se disait apôtre, grand apôtre du Seigneur, qui faisait trembler les sorciers dans les villes. Et quand il arrivait, les démons fuyaient juste à sa présence. Il parlait avec les anges. C'était tout et n'importe quoi. Bon. Mais après, je me suis dit, je vais quand même creuser encore. Je vais taper le nom du pasteur, chercher quelle église, quelle dénomination, etc. Vous savez ce que j'ai trouvé ? Eh bien, rien. Il n'existe pas, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne une fausse apparence pour dire des choses soi-disant prophétiques. Mais le nom du pasteur n'existe pas, il n'a pas d'église. Apparemment, ça c'est sorti de quelqu'un au Brésil qui a voulu dire ce qu'elle voulait dire, la personne. Frères et sœurs, vous voyez que quand le Seigneur veut parler, il le fait dans un cadre. Quand le Seigneur veut parler, quand les prophètes parlaient, ils avaient beau être seuls, mais ils étaient dans le peuple. Ils étaient seuls à prendre position pour le Seigneur, mais ils étaient encadrés dans le peuple quand même. Ils étaient attachés. Quand on se tient à l'écart, on est en danger et on met aussi les autres en danger. Nous avons besoin d'avoir ces paroles qui font du bien et aussi des paroles cadrées par la parole. Amen. C'est ça l'essentiel. Des paroles qui se reposent sur le fondement de la parole de Dieu. Regardez la proportion de versets dans la prédication de l'apôtre Pierre à ce moment-là. On a l'impression qu'il ne fait que réciter des versets. Non ? Si ? Mais pourquoi ? Parce qu'il a compris, et le Saint-Esprit le pousse à agir de cette manière, parce qu'il a compris la puissance de la parole de Dieu. Et ce n'est pas ses raisonnements à lui, c'est la puissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans nos bouches ? Qu'est-ce qui sort de nos bouches, frères et sœurs ? Est-ce que ce sont des versets ? Est-ce que ce sont des principes bibliques ? Ou est-ce que ce sont des paroles de sagesse humaine ? Non, des fois on trouve dans la sagesse humaine de la bonne sagesse, mais en fait on s'aperçoit que Dieu l'a déjà dit d'une autre manière quelque part. On parlait tout à l'heure de beaucoup de conseillers. Vous savez, la Bible nous parle que c'est important qu'il y ait beaucoup de conseillers dans les projets. Le salut est dans le grand nombre de conseillers. On parlait pour les docteurs, par exemple, que maintenant ils se réunissent à plusieurs avant de donner un diagnostic. Mais c'est un principe biblique, ça, qu'il faut être nombreux. C'est pour ça qu'on a un conseil d'administration. C'est pas un pasteur qui décide tout, c'est des frères et sœurs ensemble qui s'attendent au Saint-Esprit, qui décident pour le bien des uns et des autres. Et on est dans cette dimension spirituelle. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Vous savez que quand on a quelque chose à dire, il y a ce que l'on dit, et puis il y a la façon de le dire. C'est important ça. Dans le thème de la communication, même dans les entreprises, c'est des principes qui sont donnés, enseignés. C'est qu'on peut dire des choses excellentes, mais si on les dit mal, les gens ne vont pas entendre ce que l'on dit. Je vous donne cet exemple. Quand j'étais stagiaire et que je faisais pas mal de remplacements dans les églises, je suis arrivé un jour dans une petite église. Et là, il y avait un vieux monsieur qui était présent et qui apportait quasiment à chaque fois des prophéties. Donc là, tout va bien, hein, super. Mais c'était spécial. Surtout le premier jour, ça m'a marqué. Vous allez comprendre. Il disait des choses excellentes. Il disait... Dieu veut te faire grâce, Dieu veut te donner sa paix, Dieu t'aime, tu es son enfant, reviens à lui, etc. Mais il hurlait. Il hurlait et la première fois, il a dit « Le Seigneur veut te donner sa paix !» Mais moi j'étais juste, je ne savais pas moi, je m'étais assis juste devant lui. Et moi j'ai eu le cœur qui a commencé à battre dans tous les côtés et j'ai pas eu la paix du tout hein, à ce moment-là. J'ai eu la peur de ma vie. Après j'ai compris qu'il fallait me mettre à l'autre bout de la rangée. Pour pas être embêté. Mes frères et sœurs, quand on parle de la paix du Seigneur, il n'y a pas besoin d'hurler. Hein. Quand on parle de l'amour du Seigneur, on dit les choses avec vérité. Et ce qu'il disait qui était tellement bon était coupé par ses cris. C'est tellement dommage. Le Saint-Esprit sait nous donner le ton qu'il faut pour parler. Le Saint-Esprit, il est le maître. C'est pas pour rien quand même que le Saint-Esprit fait le parler en langue. Ça veut dire qu'il est le maître de notre langue. Qu'on lui laisse la possibilité d'être le maître de notre langue. Maintenant, il ne nous force jamais. Hein. L'Esprit du prophète est soumis au prophète. Le Seigneur nous propose toujours. Mais nous devons avoir ces paroles qui sont... assaisonné de sel, pleine de grâce, qui communique cette grâce à ceux qui nous entendent et qui nous permet de sortir peut-être le verset qu'il faut au bon moment à la personne qui en a besoin. L'Esprit Saint nous remplit aussi, je termine avec cette pensée, de paroles concrètes. C'est des paroles qui font le lien entre le présent et la parole de Dieu. Pierre, qu'est-ce qu'il fait ? Il leur dit, voilà, les signes dans le ciel, vous avez remarqué, mais regardez, c'est marqué dans la Bible. Les personnes qui prophétisent, qui parlent la langue, c'est marqué, l'Esprit du Seigneur va descendre dans les temps de la fin. Pierre est en train de faire le lien entre ce que ces personnes sont en train de vivre et ce qu'ils voient, et ce qui est écrit plutôt. C'est tellement important et nous avons ce devoir en tant qu'enfants de Dieu de faire le lien entre ce qui se passe. Vous allez me dire, oui, mais là c'était au temps du Saint-Esprit. Non, 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 c'est aujourd'hui pareil. Nous sommes dans les temps de la fin. Et ce qui se passe autour de nous, on n'est pas surpris, ébahi, on est prévenu depuis des milliers d'années. Et on doit donner ce témoignage à ceux qui nous entourent, que ce sont les choses qui sont écrites dans la parole. La Bible n'est pas un livre vieillot, dépassé, dont le message, on n'en a plus rien à faire aujourd'hui. Au contraire, plus le temps passe, plus on s'aperçoit que le message il est brûlant d'actualité. Plus le temps passe, plus on s'aperçoit que les prophéties du Seigneur sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Des fois, on n'en a même pas conscience, mais c'est en train de s'accomplir. Et vraiment, il faut avoir ce discernement, cette intelligence pour faire le lien entre ce qui se passe et la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Est-ce que nous sommes ébranlés, effrayés par ce qui se passe dans ce monde ? Où est-ce que nous disons, Seigneur, tu nous l'as dit, nous voulons, nous, faire ce qu'il faut pour veiller et aussi pour porter ce message autour de nous. L'Esprit Saint nous remplit de ses paroles concrètes, mais aussi de ses paroles centrées sur le Christ. Remarquez que Pierre parle d'une personne, il ne parle pas de lui, il parle d'une personne, il parle de qui ? Du Seigneur Jésus. Et il parle du Seigneur Jésus, dans quel contexte ? Crucifié. Alors, en plus, il ose dire, vous l'avez crucifié, vous l'avez trahi. Quoi ? Il n'y a pas si longtemps que, mais il a fait la paix avec le Seigneur. Lui. Vous l'avez. Frères et sœurs, est-ce que nous reconnaissons que ce qui s'est passé il y a 2000 ans en arrière, c'est pour chacun de nous que ça s'est passé ? Oh, mais moi, j'étais pas encore né, non. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour les pécheurs de tous les âges, pour ceux d'aujourd'hui. Si quelqu'un dans ce lieu n'a pas fait la paix avec Dieu, soyez assurés que le Seigneur Jésus est venu pour vous, et pour votre voisin, et pour celui qui est encore à côté, pour chacun de nous, et pour même ceux qui sont au dehors, parce que c'est cette parole que nous devons faire monter devant tous, centrée sur Jésus. Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Dieu comble les vides de nos cœurs. Ce matin, on va fermer les yeux. Et je voudrais juste vous poser cette question. Est-ce que dans votre cœur, il y a un vide? Est-ce que dans votre cœur, il y a une blessure qui est là peut-être? Les circonstances de la vie peuvent nous blesser, peuvent déchirer et peuvent faire échapper notre joie, notre paix. Mais le Seigneur est celui qui guérit et qui remplit. Ce matin, est-ce que nous allons laisser son Saint-Esprit nous remplir? Est-ce que nous allons soupirer après sa présence? Soupirer après son action, reconnaissant que nous ne méritons rien, mais que c'est sa grâce qui nous donne toutes choses? Ce matin, le Seigneur est celui qui veut combler nos vies de son Saint-Esprit pour que nous apportions à ce monde des paroles inspirées. Je voudrais m'adresser ce matin à quelqu'un. C'est quelqu'un qui dit que le Seigneur n'agit pas, que le Seigneur ne fait pas, que le Seigneur tarde. Le Seigneur veut te rappeler qu'il est là, qu'il attend. Non pas qu'il ne tarde, mais il attend que tu ouvres la porte. Souviens-toi de cette église de Laodicée qui pensait vivre beaucoup de choses avec Dieu et dont le Seigneur Jésus était à la porte. Le Seigneur est là. Le Seigneur ne tarde pas. Il attend simplement que tu ouvres la porte de ton cœur. Et il va agir. Et il va faire son œuvre. Et il va remplir. Ne pense pas que tu es une personne que Dieu ne veut pas bénir. Ne pense pas que tu es une personne qui n'a pas droit à toutes ses promesses. Elles sont aussi pour toi si tu laisses le Seigneur rentrer. Merci Éternel pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci pour cet exemple que tu nous montres, de cette onction de ton Saint-Esprit sur les cœurs. Seigneur, ce matin, nous réalisons les uns et les autres que nous avons besoin d'être remplis tout à nouveau de ton Saint-Esprit, que nous avons besoin, Seigneur, dans ce monde qui entend tellement de paroles négatives, tellement de paroles fausses et de mensonges, d'être des personnes qui s'élèvent et qui racontent les merveilles de Dieu, inspirées par le Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui donnent ces paroles à cette génération, à nos familles, à nos voisins, à ceux qui sont autour de nous. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui ont toujours cette parole qui honore ton saint nom, cette parole qui ne fait rougir personne. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui fait cette œuvre par tes enfants. Ce matin, tu nous fais grâce et tu nous permets de porter du fruit, Seigneur, dans tout ce que nous pouvons faire. Reçois l'adoration de nos cœurs, Seigneur. Amen.